redoublant, fit tomber un à un ses quatre adversaires comme l'on fauche les foins. Voyant le capitaine lui-même succomber sous les ultimes assauts de ce monstre, Charles de Valois, affolé, déconfit, plutôt que d'aller au-devant d'une mort certaine, prit la fuite et disparut dans les ruelles de Compostelle, où l'on ne le revit plus jamais. Il avait échoué. Suriel, après avoir percé de part en part le dernier homme debout, poussa un hurlement furieux qui résonna sur la grand-place, car à ses pieds gisait le corps de son frère. Et Andreas, à Alice et Robin, avait depuis longtemps disparu. Chapitre 137. Sans avoir échangé une seule parole, les trois compagnons arrivèrent essoufflés aux portes de la ville, où Andreas acheta aussitôt deux chevaux, et galopant tout le soir, ils s'éloignèrent rapidement de Compostelle pour ne s'arrêter fourbus qu'en pleine campagne, la nuit était tombée. Robin, qui avait pourtant perdu beaucoup de sang et donc de force, se précipita aussitôt vers son maître. « Qui étaient donc ces hommes qui sont venus à notre secours ?»« Il m'a semblé reconnaître Charles de Valois. »« Monsieur le frère du roi ?» s'exclama Robin incrédule. « En personne. » Puis l'apprenti dubitatif. « Et il nous aurait sauvés ?»« Pour mieux nous arrêter ensuite, peut-être. » »« À moins qu'il ne fût là pour servir quelque dessein politique obscur. » Lui qui est si souvent en conflit avec son frère. Comment savoir? Les intrigues du pouvoir sont parfois impénétrables, Robin.
Qu'importe, intervint Alice. Il nous a sauvé la vie, et c'est tout ce qui compte à mes yeux.
L'apothicaire acquiesça, avant de se tourner de nouveau vers son apprenti. Laisse-moi voir cette blessure, mon garçon. Robin s'assit sur une souche et montra le vilain coup qu'il avait reçu à la cuisse. Andreas, trouvant dans son sac et dans la nature qui les entourait de quoi soigner le jeune homme, s'occupa aussitôt de lui pendant qu'Alice préparait un repas. Plus tard, en mangeant sous la voûte étoilée de cette nuit d'avril, ils gardèrent un silence lourd d'inquiétude. Mais quand ils eurent terminé, ils ne faillirent point à cette tradition que partagent le soir tous ceux qui voyagent longuement ensemble. Ils discutèrent.
« Vous deviez nous dire ce que vous avez fait pendant tout ce temps que nous vous avions perdu, »
rappela Alice. Ainsi Andreas leur raconta volontiers ses aventures, avec la verve et l'humour qu'on lui connaît, soucieux sans doute de redonner un peu d'espoir aux deux jeunes gens. Prenant tout son temps, donnant à telle ou telle anecdote un éclairage sarcastique, et ne manquant guère de ridiculiser ce qu'il avait dupé. Et ainsi j'ai pu traduire cette phrase, dont on est en droit de supposer qu'elle figurait là depuis plusieurs siècles. Le livre est caché dans le buisson ardent.
« Et qu'est-ce que cela veut dire ?»
demanda la jeune Occitane. « Eh bien, demande à ton dévot ami Robin, lui qui connaît si bien les Écritures.
Le buisson ardent était une plante située sur le mont Sinaï et qui brûlait perpétuellement sans jamais se consumer. C'est en ce lieu que Yahvé se révéla à Moïse. Et c'est là qu'il lui donna les tables de la loi, telles que le raconte l'Exode.
« Saurais-tu citer le passage de mémoire ?» demanda sournoisement Andreas.
« Douteriez-vous de ma mémoire, maître ?»«
Au contraire, je la sais fort bonne, mais tu dois l'entraîner quotidiennement. »
Moïse mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père.